secretos de tu alma.
Les Racines du Ciel, une émission de Leili Anvar avec la participation de Frédéric Lenoir. Réalisée par Clotilde Pivin, préparée par Thierry Beauchamp, avec aujourd'hui à la prise de son Chantal Nouvelot.
Dime de dónde viene la luz de tu cara.
Nous sommes aujourd'hui à la Saline royale d'Arc-et-Senan, dans le département du Doubs, majestueux ensemble construit au XVIIIe siècle par l'architecte Nicolas Ledoux et désormais établissement public de coopération culturelle. Dans ce cadre magnifique, où sous l'impulsion de son nouveau directeur, Hubert Tassy, la musique sacrée a fait une entrée remarquée et remarquable, nous recevons Gérard Kurdjian pour nous parler de musique sacrée, justement, à l'occasion de la sortie de son livre « Le grand livre des musiques sacrées du monde » aux éditions Albin Michel. Bonjour à tous les deux, Hubert Tassy et Gérard Kurdjian.
Bonjour.
Avant de présenter notre invité, est-ce que vous voulez bien, Hubert Tassy, nous présenter en quelques mots ce lieu que vous dirigez donc avec bonheur et nous expliquer d'où vous est venue l'idée de faire entrer la musique sacrée dans un espace qui avait au départ une vocation plutôt industrielle, puisqu'à l'origine, la saline était destinée à traiter le sel?
Oui, alors effectivement, la saline royale d'Arc-et-Senan est un lieu improbable. C'est un lieu, quand on le visite, on ne peut pas imaginer quelle était la fonctionnalité de ce lieu, en particulier son passé industriel. On se demande si c'était un palais, si ça servait d'abri, effectivement, à quelques nobles de province. Mais c'était bien une usine du sel, où on traitait le sel qui venait de Salins-les-Bains sous forme de saumure. Et qui a fonctionné pendant une centaine d'années, qui a été construite en 1775 à 1779, donc un court laps de temps, 4 ans, hein, pour construire cet ensemble de 11 bâtiments, par un architecte qui était célèbre en son temps, un peu oublié par la suite, Claude-Nicolas Ledoux, et qui, plus qu'un architecte, était un visionnaire, qui était empreint des idées des Lumières, et qui pensait que l'architecture devait ordonner le chaos du monde. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à la Saline Royale en 2016. Voilà. Cette saline qui a eu des heures et des malheurs à travers l'histoire et qui est devenue un centre culturel de rencontre. Au début des centres culturels de rencontre, quand Jacques Rigaud les a créés dans les années 70. Puis après, qui a été classée, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, au titre du patrimoine industriel d'ailleurs. Et aujourd'hui, donc, il y a une programmation culturelle. Je suis là effectivement depuis une année. Mon passé fait que la musique a été, tout au long de ma carrière, l'élément un peu essentiel. Et les amitiés musicales aussi que j'ai pu nouer, en particulier avec Jordi Savall. Et quand je suis arrivé, j'ai proposé à Jordi Savall de venir à la Saline Royale, jouer, faire des stages. Et il m'a dit, mais pourquoi on n'irait pas un peu plus loin et on n'imaginerait pas que pour le Concert des Nations, qui est son ensemble français, il a aussi un ensemble espagnol, la Capella Real de Catalunya, on n'imaginerait pas une résidence, une vraie résidence artistique. Et voilà, c'est le projet qu'on a défendu auprès de tous les partenaires, l'État, la région, le département. Ils ont dit oui, et depuis maintenant quelques mois, Jordi Savall est à la Saline avec son répertoire, donc qui est pour une bonne part effectivement du répertoire sacré.
Jordi Savall que nous retrouverons d'ailleurs la semaine prochaine, toujours à la Saline, aux Racines du Ciel. Et alors, vous avez aussi un autre projet qui démarre, en fait, avec cette émission, d'une certaine façon, qui est le projet des rencontres spirituelles de la Saline. Alors, dites-nous-en quelques mots, Hubert Tassy, de ces rencontres que vous comptez développer et mettre en place ici pour qu'aient lieu, peut-être, des étincelles spirituelles.
Et alors, effectivement, et là, c'est un projet qui est en lien avec votre invité, avec mon ami Gérard Kurdjian, puisque l'idée est née ensemble. Voilà, on a réfléchi devant cette saline, devant ce lieu. On s'est dit, c'est vrai qu'il y a une dimension spirituelle, même si c'est un lieu laïque, c'est un lieu de travail. On ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a une dimension spirituelle à la saline. Et donc, l'idée est venue comme ça, donc de créer un moment de rencontre autour de la spiritualité, musicale, littéraire. Et on a associé à notre réflexion Jean Moutapa, donc le directeur des spiritualités vivantes d'Albin Michel. Et c'est comme cela qu'on se retrouve à la Saline Royale, voilà, avec ce projet d'un rendez-vous régulier autour de la spiritualité, avec des auteurs, avec de la musique, avec une programmation.
Voilà, et le premier rendez-vous est donc avec Gérard Kurdjian pour la présentation de ce livre, le grand livre des musiques sacrées du monde, dont nous allons parler, à la fois le livre et les musiques sacrées, bien sûr. Alors d'abord, pour vous présenter, Gérard Kurdjian, vous êtes vraiment un passionné des musiques et des spiritualités du monde et vous travaillez depuis 25 ans dans divers domaines de la création artistique. Fondateur et ou directeur artistique de nombreux festivals de musique, vous avez en particulier participé à la création du prestigieux festival de Fès des musiques sacrées du monde, dont vous avez été le directeur artistique de 1994 à 2009, ce qui fait quand même une longue fréquentation d'artistes et de musique sacrée précisément. Également musicien vous-même, producteur, conférencier, journaliste de radio, l'ensemble de votre travail est centré sur une vision œcuménique et transversale des cultures et des arts du monde. Concepteur de création où vous entrecroisez musique et texte, dont vous êtes aussi d'ailleurs quelquefois le récitant, vous avez produit en 2013 « L'oiseau de feu, musique persane et poèmes mystiques d'Orient et d'Occident » paru sur le label « Accords croisés ». Je peux dire que moi j'ai énormément apprécié en fait cette création, forcément à cause de la musique persane, vous me direz, mais aussi à cause de ce dialogue en fait, grâce à ce dialogue que vous y menez de manière assez brillante. Et puis vous avez aussi fait paraître « Méditation sur la vie et la mort » d'après l'oraison funèbre d'Henriette d'Angleterre de Bossuet, en compagnie du grand joueur de viol de gambe Jonathan Dunford. Profondément attiré par les spiritualités du monde, convaincu que les musiques sont un puissant vecteur de communication entre tradition et culture, vous avez développé à partir de votre expérience et de vos nombreux voyages une réflexion globale sur les rapports entre la musique et le sacré. Alors Gérard Kurdjian, d'où vous vient cette passion, je dirais même cette fin jamais assouvie de découvrir de nouvelles formes d'expression musicale du spirituel ?
Mais écoutez, c'est une histoire qui remonte à très très loin. Disons que c'est une quête personnelle que je peux faire remonter à mon adolescence, d'une certaine façon, à mes premières lectures. Alors bon, je ne vais pas livrer tout le cheminement depuis cette période, mais c'est vrai que depuis que j'ai l'âge de 16, 17, 18 ans, je m'intéresse à la philosophie. Je me rappelle qu'au lycée, j'étais passionné par Kierkegaard, par exemple. Ensuite, j'ai découvert les musiques, qui ont pris un petit peu le pas sur le cheminement purement intellectuel, textuel. Et à travers ces musiques, j'ai découvert les musiques du monde, dans ma trajectoire personnelle, et les musiques de l'Inde. Et c'est vrai que l'Inde a été pour moi une sorte de révélateur, musical d'abord, culturel ensuite, spirituel plus tard, de manière souterraine en réalité, parce que le contact que j'ai eu avec l'Inde, avec Bénarès, avec Lucknow, qui sont des villes où j'ai travaillé la musique avec de grands maîtres indiens, j'ai travaillé les percussions, les tablas indiens, m'a fait côtoyer toute une culture. Et comme je le dis souvent, je ne me suis pas intéressé directement à la spiritualité avec un grand S et beaucoup de guillemets de l'Inde, mais je me suis beaucoup imprégné du contact, je dirais charnel, avec la population, les gens des rues, les gens des musiciens. Et à travers ce contact quotidien, qui était un contact, je dirais, horizontal, il me semble que j'ai été pénétré par une certaine forme de présence qu'ont ces Indiens d'être au monde. Et à travers les musiques, puisque les musiques de l'Inde sont porteuses effectivement d'une beauté et d'une intériorité extrêmement puissante, j'ai été touché probablement par quelque chose qui a remué en moi un vieux ferment qui datait peut-être de mon adolescence. Et de cette façon, à mon insu un peu je dirais, s'est développée de manière plus explicite une attraction vers les univers spirituels de l'Orient. Voilà. Sur ces entrefaites, je passe des épisodes personnels. J'ai été appelé au Festival des musiques sacrées de Fès qui était en gestation. Et donc j'ai été appelé à bâtir le programme artistique. Et de ce fait, cela a pris le relais de ces années hindoues, je dirais, d'une certaine façon. Et de manière assez intéressante, mon premier contact avec l'Inde s'est fait avec la ville de Bénarès, qui est la ville sainte peut-être de l'hindouisme. Et mon deuxième contact avec le monde arabo-musulman s'est fait avec la ville de Fès, qui est aussi une des villes saintes de l'islam. Donc, j'avais le double sceau de la sainteté, si on peut dire, qui a pesé un peu sur ces années-là. Et fort un petit peu de cette onction, enfin, je dis ça avec beaucoup de guillemets, hein, c'est une manière de prendre les choses avec légèreté, j'ai développé une relation de plus en plus riche et de plus en plus profonde avec un certain nombre d'acteurs, des musiciens, des artistes importants, de ces scènes des musiques sacrées du monde et de ce côtoiement, de cette manière de vivre ces musiques sacrées au quotidien d'une manière très prosaïque, au sens où il faut contacter des musiciens, il faut organiser des programmes. On a à peine le temps de saisir leur profondeur, qu'on est déjà happé par l'actualité des choses qu'il faut mettre en place. J'ai donc été brassé un petit peu par ce travail qui a duré une quinzaine d'années, quoi, finalement.
Oui, et dont d'ailleurs le livre, ce livre, le grand livre des musiques sacrées du monde, est un, je trouve, un reflet fidèle. On voit bien que ce processus-là, c'est celui qui vous a mené à écrire ce livre, puisque ce n'est pas une encyclopédie dans le sens habituel du terme. D'ailleurs, je vous ferai un reproche, c'est qu'il n'y a pas d'index à la fin. Donc, il pourrait y avoir un côté un peu plus encyclopédique, mais bon, ça, c'est une parenthèse que je ferme. Mais parce qu'on sent d'abord que vous avez connu ces musiques. C'est-à-dire que ce n'est pas une connaissance intellectuelle que vous êtes allé chercher dans les livres. On voit que vous les avez côtoyées. Vous avez bien dit à propos de l'Inde que c'est un rapport charnel que vous avez eu avec la musique. Et que de ce rapport charnel, ensuite, vous êtes venu à réfléchir aux fondements spirituels de chacune de ces traditions musicales. Et puis, d'ailleurs, à la fin de chaque chapitre, il y a une ou deux questions posées à un des acteurs, précisément, de ces musiques. Et ça, c'est un des grands charmes du livre. C'est que d'un coup, on voit que vous les avez connus, que vous leur avez posé des questions, et que cette musique sort de son côté purement théorique, et que vraiment, on voit qu'il y a des gens qui la pratiquent, qui pratiquent non seulement cette musique, mais qui vivent ces spiritualités. Parce que ce qui ressort quand même des questions et réponses que vous posez à la fin de chaque chapitre, c'est que on ne peut pas impunément être quelqu'un qui fait de la musique sacrée, enfin, je dis bien impunément dans le sens non spirituellement impliqué dans la musique sacrée. Est-ce que vous diriez cela? C'est-à-dire que les gens qui font de la musique sacrée, d'une manière ou d'une autre, à leur corps défendant ou pas, sont obligés de s'intéresser aux racines spirituelles des musiques qu'ils pratiquent?
Oui, tout à fait, tout à fait. Vous avez tout à fait raison de dire qu'on ne peut pas faire impunément de la musique sacrée, au sens où ces musiques sacrées véhiculent des affects très profond, et ces affects touchent les âmes, les cœurs et les corps. Et donc, être brassé en permanence par ces sonorités, par ces textes, par cette beauté, a obligatoirement un effet direct sur les esprits, sur les âmes. Et donc, quand bien même on se prétendrait être juste un artiste, entre guillemets, d'une certaine façon, simplement charmé par le côté esthétique des formes musicales qu'on travaille, on est touché à son insu, obligatoirement, par la puissance et par le sens et par les contenus spirituels, effectivement, intérieurs que véhiculent ces musiques. D'ailleurs, lorsqu'on parle de musique sacrée, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Il faudrait peut-être essayer de définir un petit peu que signifie le terme sacré dans cette espèce de syntagme qu'on appelle musique sacrée. Je parlerai de manière plus simple, je dirais, et plus humble d'une certaine façon, parce que le mot sacré a une connotation un peu comme ça, grandiose. Je parlerai des musiques de l'intériorité, en tous les cas en tant que musique, parce que musique sacrée peut être apparié à une fonction liturgique. C'est d'ailleurs l'origine du terme. C'est-à-dire que dans toutes les religions, il y a eu, depuis les origines, l'utilisation, l'emprunt à des formes musicales qui sont venues appuyer les textes, qui sont venues appuyer les moments de prière, les moments d'élévation spirituelle. Et donc, ces moments liturgiques peuvent être effectivement qualifiés de purement religieux. Mais en dehors de ce contexte purement liturgique, ces musiques aussi se déploient dans d'autres espaces, selon les religions. Si on prend l'exemple de l'islam, il n'y a pas dans l'islam de liturgie particulière comme elle existe dans le monde chrétien, avec la messe par exemple. Dans l'islam, le moment liturgique particulier qui existe à la mosquée, c'est la lecture du Coran. hein, le tajouïd, la lecture, la cantillation coranique, l'appel à la prière. Mais hormis ceci, il n'y a pas de manifestation ni de chant ni de musique dans le cadre de la mosquée. Par contre, ces chants, qui ne sont pas liturgiques, existent dans le monde du soufisme, dans l'univers des confréries soufis, où là, effectivement, en dehors du cadre liturgique, se développent des musiques, des textes et des chants qui sont porteurs, vecteurs de puissance spirituelle.
Alors, vous avez dit intériorité, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment le point commun, puisque comme vous venez de le dire, la musique, par exemple, purement liturgique, la musique d'église, on ne peut pas dire qu'elle soit une musique tellement d'intériorité. Elle est plutôt pour exalter quelque chose de la gloire de Dieu, éventuellement réveiller quelque chose à l'intérieur, mais surtout quand elle devient polyphonique, grandiose, avec toutes sortes d'instruments et toutes sortes de voix, c'est vrai qu'on a du mal à imaginer que ce soit une musique de l'intériorité. Mais est-ce que vous diriez pas plutôt que c'est une musique qui s'adresse peut-être à l'âme ou à l'intériorité, plutôt qu'elle n'est elle-même la manifestation d'une sorte d'intimité personnelle ou intime, enfin une intimité en fait avec le divin, Gérard Kurdjian?
On pourrait parler de plusieurs niveaux. Il existe des musiques liturgiques, par exemple dans le monde chrétien, qui sont tout à fait proches de cette intériorité. Le chant grégorien, les traditions de chant liturgique corse, de Ligurie, qui sont chantés par des chœurs de villageois, par des confréries de pénitents, dans des circonstances très 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 particulières, souvent intimes, dans des petits villages. Donc ces chants-là, qui sont des chants très anciens, s'adressent effectivement à l'intériorité. Évidemment, la musique s'est développée de manière tellement sophistiquée dans le cadre, dans le chant de la messe, par l'effet des commandes que les monarques, les pontifes, les souverains passaient à des compositeurs de plus en plus férus dans l'art d'écrire et de composer, que de ce fait, effectivement, l'intériorité devient quelque chose qui prend une dimension grandiose. Hein, voilà. On a au départ des formes musicales qui sont propres à la liturgie. Prenons l'exemple d'un requiem, par exemple, qui est un moment d'intimité profonde, puisque c'est le moment où on salue le départ d'un défunt dans des formules qui sont extrêmement intimes et puissantes. Et évidemment, lorsqu'on a un orchestre de 250 personnes qui interprète le requiem de Verdi, on n'est plus dans cette dimension de l'intériorité. Mais là, je dirais, ce sont des développements que l'Occident chrétien a connus, mais que dans d'autres traditions qui sont plus proches des formes traditionnelles, hein. Je parle de l'Orient, je parle même des traditions orthodoxes dans le monde slave, dans le monde balkanique ou dans le monde russe, on a là des musiques qui ont gardé tout au long des siècles cette relation à l'intériorité. Je pense par exemple au chant des vieux croyants orthodoxes russes, qui sont des chants qui ont gardé leur simplicité depuis des siècles et qui s'adressent effectivement à cette dimension intérieure où le croyant se replie un petit peu sur lui-même et se transmute en lui-même en une sorte de monument de prière intérieure par la grâce de la musique et du chant. Dans un très très beau livre qui malheureusement est introuvable, qui s'appelle « L'Église à la conquête de sa musique », Solange Corbin, qui est une musicologue de très 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 haut niveau qui malheureusement n'est plus, explique comment l'Église des premiers temps a progressivement formaliser, pacifier le rapport des fidèles au chant dans le cadre de la messe. Les premières messes ont un côté absolument informel, difficilement contrôlable, parce que les premiers chrétiens qui viennent la plupart du temps du monde juif ont transmis l'exubérance des chants des traditions juives dans les premiers cercles de croyants et dans les premiers offices. Et donc, durant plusieurs siècles, on a ce travail de l'Église qui vise à calmer les ardeurs et les faire rentrer dans un cadre qui devient le cadre du chant grégorien. Ce cadre a fonctionné pendant jusque vers le 10e, 11e siècle d'une manière solide, et le chant grégorien est devenu la référence majeure du chant dans l'Occident chrétien. Alors, là commence le problème, parce que on a d'une certaine façon deux forces qui sont en tension dans cet univers. Comme je l'ai dit au début, on a le pouvoir religieux qui se manifeste à travers un texte et à travers des dogmes et à travers une hiérarchie ecclésiastique qui est là pour le transmettre et le conserver en l'état. Et d'un autre côté, on a cette autre force, cette autre énergie qui est l'énergie musicale. La musique, est quelque chose qui a une puissance, une capacité à émouvoir, qui est probablement unique dans les manifestations artistiques. Comme le disait Jordi Savall, je me rappelle, il y a quelque temps, rien n'est plus puissant que la musique pour ébranler et pour faire bouger les corps et les âmes. Donc, dès lors que cette musique intervient progressivement dans la manière dont les fidèles doivent répondre, les premières manifestations, les premiers contenus des messes sont des lectures très simples des évangiles auxquelles le public des fidèles répond par des simples « Alléluia » et « Amen ». Mais progressivement, c'est une tendance de l'humain, les choses prennent une tournure de plus en plus sophistiquée, de plus en plus belle. Et vient cette idée, alors justement parce que avec les fidèles qui sont de plus en plus nombreux, se fait jour la nécessité de confier la maîtrise de tout ce processus de chant et de réponse à des chantres qui deviennent de plus en plus professionnels. Et évidemment, comme ils ont affaire à un matériau, ils ont envie de le sculpter, de lui donner une forme de plus en plus belle, bien sûr au service de Dieu, bien entendu. Il n'est pas question là de manifester un ego quelconque, d'ailleurs, puisque tous les compositeurs de cette époque sont anonymes. Toutes les formes traditionnelles d'art se cachent derrière l'humilité de l'anonymat, puisqu'on est au service de Dieu et l'ego disparaît, devient juste un médium transparent qui transmet le message. Donc, mais malgré cela, la sophistication, l'esthétisme est rentré. Comme dit Solange Corbin, le verre est dans le fruit. Le verre est dans le fruit et il va faire toute sa place progressivement. On va voir apparaître des formes de polyphonie, d'abord discrètes et puis de plus en plus fortes. Et on va arriver vers le XVIe siècle avec une efflorescence polyphonique extraordinaire qui fait que l'Église va décider de mettre le holà. Le Concile de Trente, qui est une réponse de l'Église catholique à la montée du protestantisme, va exiger des musiciens qui composent pour l'Église de revenir à des formes beaucoup plus simples, parce que le texte avait disparu dans l'efflorescence esthétique des polyphonies et des chants. Donc, on a cette tension entre, d'une part, la rigueur et la beauté, entre le dogme et la liberté qui se manifeste entre ces deux pôles du texte sacré et de la musique. On va le retrouver dans le monde musulman, dans le monde du bouddhisme. Je peux vous lire un petit chapitre, quelques phrases vraiment très très intéressantes prononcées par le Bouddha. Justement, il dit Bhikkhu, c'est les moines. Il y a 5 dangers à réciter le dharma avec une intonation musicale. Celui qui chante s'attache à son propre chant. Les autres membres présents s'attachent à son écoute. Les voisins s'agacent et disent, comme nous chantons, ces fils de Shakya chantent. La concentration de ceux qui n'aiment pas le chant est entravée et les générations futures imiteront ces pratiques.
Oui, alors on a l'impression, vous ne le dites pas tout à fait clairement, mais en lisant entre les lignes, on voit que finalement ce qui court et ce dont se méfient les institutions religieuses, c'est au fond la sensualité de la musique, c'est la jouissance, c'est le plaisir. Vous avez dit, voilà, on augmente la beauté, donc en augmentant la beauté, on augmente le plaisir, et on a quand même l'impression que à un moment donné, donc cette musique qui est censée concentrer le croyant sur l'essentiel, d'un coup lui fait perdre la concentration, et d'ailleurs c'est ce que dit le Bouddha ici, parce qu'on est saisi par une jouissance, enfin il n'y a pas d'autre mot, qui peut aller jusqu'à l'extase, qui peut aller jusqu'à la transe, et vous en parlez aussi. Et donc ça, c'est conçu comme quelque chose de dangereux, parce que c'est potentiellement un espace diabolique.
Absolument, absolument. C'est potentiellement un espace diabolique. Il y a dans le monde musulman, par exemple, 2 formes d'extase musicale. Il y a la forme esthétique, qu'on éprouve à l'écoute d'un concert de musique savante, qui s'appelle le tarab. Si on assiste à des concerts de musique arabe dans des pays du Maghreb ou au Proche-Orient, on entend souvent le public pousser des petits gémissements de plaisir ou accompagner un chanteur qui développe une improvisation vocale magnifique. On est là dans le domaine de la jouissance esthétique. C'est le tarab que les jurys consultes musulmans n'acceptent pas. Enfin, sur le plan stricto sensu, religieux, ce sont des choses qui sont combattues par tous les grands juristes du monde musulman. Et par contre, on a une autre forme qui est celle qui est une autre forme d'extase, alors celle-là qui peut justifier d'avoir le label spirituel, qui est le wajd, et qui est l'extase, la qui est vécu par les adeptes des confréries soufis lorsqu'ils se retrouvent dans leur assemblée de sama, d'audition spirituelle, ou par le moyen de chants, qui sont d'ailleurs souvent des chants a cappella, quelquefois avec des instruments musicaux qui sont plus ou moins tolérés selon les confréries, ils éprouvent justement cette vague, il faut le dire, sensuelle, mais sensualo-spirituelle, d'une certaine façon. Alors, le distinguo est difficile, c'est la raison pour laquelle les fondamentalistes mettent tout dans le même sac, et que ça soit tarab ou que ça soit wajd, ils le proscrivent.
Oui, et puis l'autre chose, là aussi vous le dites un peu en filigrane, mais c'est que au départ, ces chants, d'abord au départ la musique sacrée elle est chant, c'est-à-dire c'est une voix humaine qui scande en fait, qui cantile, et les instruments mettent un certain temps à entrer. Et ce qui met encore plus de temps à entrer dans la musique sacrée, c'est la voix féminine. Et probablement que c'est lié à cette idée que il y a un potentiel diabolique quand même dans le plaisir qu'on peut ressentir à écouter une voix féminine chanter, qui fait qu'encore aujourd'hui, même dans des pays où la musique est acceptée, y compris sur un plan liturgique, parfois les femmes n'ont pas le droit de chanter seules. C'est vrai par exemple en Iran.
Oui, c'est vrai. Il faut quand même un petit peu le tempérer, parce que par exemple au Moyen-Âge, on a une grande poétesse mystique qui est Hildegard von Bingen, qui a composé des poèmes chantés extraordinaires. Et donc elle représente dans le monde de la tradition médiévale une figure éminente de la tradition du chant.
Mais elle les chantait elle-même ?
Non, elle ne les chantait pas elle-même. Oui, mais elle fait partie, elle a composé. Alors c'est vrai. Là, dans mon livre, je fais référence à une messe qui est la première messe qui a été trouvée à Tournai en Belgique. Et cette messe a été chantée, maintenant, dans notre époque, pour la première fois par un chœur de femmes.
Gérard Curdian, en vous lisant, on se rend compte que l'origine de la musique sacrée est aussi très liée au texte. C'est-à-dire qu'il y a au départ un texte sacré, alors qu'il soit écrit ou oral d'ailleurs, selon les traditions, mais qu'au fond, la musique dite sacrée va naître de cette matrice textuelle. C'est-à-dire qu'on va vouloir dire le texte selon un certain rythme qui permettra peut-être de le rendre plus immédiatement perceptible dans son côté émotionnel, en réalité, à l'auditeur, ou tout simplement faire connaître le texte à l'auditeur, puisque pendant de longs siècles, les gens n'avaient pas accès à l'écrit. Est-ce que vous diriez que c'est peut-être une des caractéristiques, en fait, de la musique sacrée, qu'il n'y a peut-être pas de musique sacrée sans au moins référence à un texte, même si il peut y avoir des parties instrumentales, mais qui évoquent quand même quelque chose du texte sacré primordial qui a présidé en fait à la composition de ces musiques sacrées.
Oui, je pense que c'est une évidence, c'est une vérité absolument irréfutable que de fonder le caractère sacré d'une musique en connectant cette musique à un texte. Parce que la musique n'a pas de signification particulière. Elle a du sens, bien sûr, mais elle ne dit pas quelque chose de précis, quelque chose de décryptable. Dès lors que, par contre, on lui adjoint un texte, la musique est orientée par le texte. Bien sûr, une musique peut orienter un texte aussi, et c'est pas si simple. Mais, disons, de manière quand même plus simple et plus évidente, c'est le texte qui donne l'orientation à la musique. On a de cette façon, dans beaucoup de traditions, des musiques qui sont utilisées dans le monde profane et dans le monde religieux, et qui se sacralisent du fait de l'utilisation d'un texte. On a par exemple dans le monde chrétien des messes, toute une floraison de messes qui ont été produites à partir du XIVe siècle jusqu'au XVIIIe siècle, qu'on appelle des messes parodies. Dans ces messes, des mélodies profanes sont utilisées, mais des mélodies que tout le monde connaissait. Il y a une messe qui s'appelle, par exemple, une messe sur le vin, une messe dédiée à une jeune fille, qui sont des mélodies tout à fait profanes et quelquefois même grivoises. Et donc, on utilisait ces mélodies en parodiant la chanson et en l'intégrant dans le corpus de la messe, en y mettant le texte sacré. Ces messes, qu'on appelle des messes parodies, ont été interdites vers le 18e siècle par l'Église, parce que la floraison de ces textes mariés à des musiques qui rappelaient aux fidèles des circonstances qui n'avaient rien à voir avec des circonstances liturgiques était arrivée à un tel point qu'il a fallu effectivement serrer un petit peu le propos et revenir au fondement essentiel. Donc c'est vrai que ce rapport entre le texte et la musique est fondamental. On le retrouve dans d'autres traditions.
Oui, d'ailleurs, justement, pour la tradition hindoue, vous dites que ce rapport au texte est même tout à fait originel ou primordial, puisque c'est la seule tradition, dites-vous, qui naît avec la musique, qui naît sur le son, qui naît, le texte lui-même se construit, au fond, sur quelque chose qui sonne du côté de la musique, Gérard Kurdjian.
Absolument. C'est particulièrement le cas, par exemple, dans le monde hindou. Dans le monde hindou, bien sûr, les textes existent. On a les Védas, on a les Upanishads, on a tout un corpus de textes qui sont très très aboutis et très élaborés. Mais dans le monde hindou, la révélation ne se manifeste pas directement de manière textuelle, elle se manifeste par une vibration. La conception, je dirais, cosmogonique de l'univers dans le monde hindou le fait naître d'un son primordial inaudible qui est le nad, dont découle la syllabe Om, qui engendre les mondes. Donc, cette vibration, elle parcourt tout l'univers manifesté, et de ce fait, on a un rapport au son qui est tout à fait différent du rapport à la musique qu'on va avoir dans les religions des trois monothéismes. On a une relation dans laquelle la musique va occuper une place prépondérante partout, sans limite et sans entrave, avec des musiques dans les temples, bien entendu, des musiques, des danses dans les temples, et aussi avec cette efflorescence, de formes multiples qui correspond un petit peu à la manière dont l'hindouisme, qui n'est pas un polythéisme, qui est en réalité quelque chose de beaucoup plus subtil, puisque le Brahman, l'Atman Brahman, le créateur des mondes, est quelque chose qui est invisible, omnipotent, omniscient, omniprésent et invisible. Et donc, par contre, ce qui est intéressant, c'est que cette forme multiple dans laquelle cette forme primordiale se manifeste, ces formes multiples dans lesquelles, ces avatars dans lesquels elle se manifeste, permet aux croyants de s'adapter et de suivre selon leur rythme et selon leur capacité, leur appétence, diverses formes de croyances et de rituels. Et ça, c'est extraordinaire.
Alors revenons, Gérard Kurdjian, à la tradition chrétienne dont on parlait au début, en relation justement avec ce que nous avons dit du texte, et avançons dans le temps pour arriver à la musique des spirituals américain, qui ensuite a donné le gospel, et vous montrez dans votre livre, de manière très, très convaincante, en fait, le lien entre justement les textes de l'Ancien Testament et la manière dont les esclaves noirs, en fait, se sont saisis de ces textes pour en faire une musique qui a une signification allégorique très forte pour eux et qui devient une sorte d'espace de liberté dans cette vie d'esclavage qui est la leur, alors qu'ils ont été déjà, pour un très grand nombre d'entre eux, bien sûr, christianisés.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que, bien sûr, il faut relier cette tradition des Negro Spirituals et du gospel qui va en découler quelques années plus tard. Il faut la relier, bien sûr, à l'histoire de l'esclavage. Et qui dit histoire de l'esclavage dit fondation des États-Unis d'Amérique par les premiers colons. Premiers colons qui sont des gens extrêmement croyants, qui sont des catholiques irlandais, qui sont des protestants suédois, allemands, anglais. Donc on a les pères fondateurs et les premiers colons qui s'installent sont extrêmement croyants. Viennent avec eux les diverses vagues d'esclaves qui arrivent dans la traite transatlantique, et ces esclaves viennent aussi de traditions dans laquelle il existe, bien entendu, là aussi, bien qu'on affuble ces traditions du vocable d'animiste polythéiste, ils croient aussi à un grand Dieu qui englobe toute la réalité. Et on le dit pas suffisamment, d'une manière un petit peu, je dirais, méprisante. On a une tendance en Occident à cataloguer ces croyances animistes sous le vocable du polythéisme et d'une croyance à des esprits un peu naïfs, etc. En réalité, bien sûr, on a ces formes multiples qui sont l'expression de diverses relations à la nature et aux esprits qui animent la nature, mais en même temps, il y a une croyance en un Dieu supérieur. Et cette croyance en un Dieu supérieur a facilité la compréhension et la relation des esclaves africains, des premiers arrivants, avec la religion chrétienne qui était la religion donc de leur maître d'une certaine façon. Et de cette façon, ils ont trouvé une sorte de refuge dans le christianisme qu'ils ont pu aborder d'une manière relativement souple parce que, en tous les cas, les premiers arrivants se sont convertis et ont été évangélisés assez rapidement. Ce n'est que plusieurs décennies plus tard que la situation s'est tendue et qu'il y a eu cette ségrégation et cette interdiction d'évangéliser, particulièrement dans les États du Sud, après avant la guerre de sécession et sur les traces de la guerre de sécession, que l'évangélisation n'a pas été permise à ces esclaves. Alors, ils ont trouvé effectivement dans la religion chrétienne du réconfort, puisque évidemment c'est une religion d'amour, c'est une religion égalitaire, et ils ont trouvé dans les racines de la religion chrétienne, particulièrement les racines hébraïques, ils ont trouvé des choses qui leur parlaient, puisque, par exemple, les notions d'exode du peuple juif ont été vécues métaphoriquement comme leur appartenant, comme étant le reflet de leur propre histoire. Et de cette façon, la terre promise a été ce dont ils rêvaient jour et nuit, et qui était la terre de leur libération, d'une certaine façon. Des termes comme la terre de Canaan, qui vient donc de la Bible hébraïque, représentée pour eux, je dirais presque de manière phonétique, avec une sorte d'assonance phonétique, le Canada, qui avait aboli un des premiers États qui avait aboli l'esclavage et où ils pouvaient trouver refuge. Donc, on a justement ces deux formes religieuses qui ont été des vecteurs de salvation d'une certaine façon.
Alors, puisque nous en parlons, Gérard Kurdjian, on va peut-être écouter une des versions du fameux chant gospel « Go down, Moses ». Il s'agit de Dieu, voilà, de Dieu qui dit à Moïse « Descends et libère mon peuple de l'esclavage de Pharaon ». Alors, quelle serait votre version ici préférée, parce qu'évidemment, ça a été chanté par beaucoup de chanteurs, pour qu'on la passe à nos auditeurs?
On va prendre une version classique qui est très connue, la version du Golden Gate Quartet, qui est un quartet vocal masculin à quatre voix, qui a d'ailleurs une histoire particulière, puisque ces quartets vocaux masculins sont nés de ce qui s'appelait les barbershops. Les barbershops, c'était des salons de coiffure, enfin, où les Noirs, dans les quartiers où ils habitaient, se faisaient faire la barbe, et où, dans leurs moments perdus, ils étaient sur le trottoir et ils chantaient ensemble des chants. Et de ces barbershops est née cette tradition des quartets vocaux qui se sont transmis jusqu'à nos jours et qui constituent l'un des cœurs, je dirais, de la tradition du négro spirituel.
Go, mon... Moses died in the land of old. Let my people go where he had never been told. Let my people go. I'm singing now. Go down to Brother Moses.
Well then,
way down in Egypt land.
Tell-o, tell-o, a pharaoh to let my people go.
Singing now,
go down, Brother Moses.
Well then,
way down in Egypt land. Tello, a pharaoh to let my people go.
Well, God called Moses on the mountaintop.
Why don't you let my people go?
Well, he put the laws in Moses' heart.
Why don't you let my people go?
Well, he stamped the laws in Moses' mind.
Why don't you let my people go?
Said Moses, don't leave my lambs behind.
Why don't you let my people go?
Singing now,
go down, Brother Moses.
Well then,
way down in Egypt land. Tello, a pharaoh to let my people go.
Keep singing now,
go down, Brother Moses.
Well then,
way down in Egypt land. Tello,
France Culture, les racines du ciel, les lions var.
Est-ce que vous diriez, Gérard Kurdjian, que ces musiques sacrées, alors c'est vrai vraiment du gospel, mais c'est peut-être vrai de toutes les musiques sacrées, sont aussi un facteur de cohésion sociale? Alors dans une tradition donnée, et peut-être, et on va arriver au temps plus moderne vraiment qui nous concerne, et peut-être aussi un facteur de cohésion en prenant compte de l'altérité, c'est-à-dire en allant vers la sacralité de l'autre, et donc ces musiques sacrées seraient peut-être un des moyens de créer ou de recréer une cohésion sociale perdue.
Oui, tout à fait. Elles ont été un facteur de cohésion sociale, bien sûr, tout au long des siècles. Je vais en donner un exemple simple. D'abord, bien entendu, dans la mesure où les peuples des diverses traditions dont nous avons évoqué l'existence étaient des peuples croyants. Bien entendu, étant croyants, ils participaient au rituel liturgique. Et je dirais, la question ne se posait pas de l'effet centrifuge des forces qui étaient là pour dissoudre un petit peu ces liens sociaux. Mais indépendamment même du caractère purement liturgique de ces chants, je prends l'exemple, par exemple, des chants de confréries de pénitents. Les confréries de pénitents sont nées en Italie à la suite de saint François d'Assise, donc vers le XIIe, XIIIe siècle, et donc elles sont constituées par des communautés de travailleurs, d'artisans, qui veulent effectuer un travail supplémentaire de charité pour venir en aide aux nécessiteux, etc., aux malades. Et donc ils se réunissent en confréries, qui ont souvent un saint patron, et ils ont cette œuvre charitable qui s'enrichit très rapidement de chants, de tout un répertoire de chants. Les laudes, par exemple, chants de louange à la Vierge Marie en Italie, ou en Corse, en Ligurie, donc toute une tradition de chants. Dans le comté de Nice, il y a toute une tradition de chants de confréries de pénitents. Et on se rend compte, en réalité, que ces confréries de pénitents ont eu un effet extrêmement puissant sur la cohésion et sur le respect, je dirais, des formes traditionnelles. Parce que aller simplement à la messe, se rendre simplement à l'église ne suffit pas pour garder la cohésion, en tous les cas, traditionnelle et religieuse d'une société. On s'en rend bien compte. En Occident, où la messe est malheureusement le lieu d'une désertification d'une certaine manière, la messe ayant disparu, les traditions de confréries de pénitents, sauf dans certains villages du sud de l'Italie ou dans certains villages particuliers, n'existant plus, on a un délitement du lien social. Donc, je veux dire par là que il est très important, et c'est valable pour toutes les traditions, dans le monde musulman pareil, pour que la société garde une certaine forme de cohésion, il a fallu, dans le cours de l'histoire, qu'il y ait non seulement une liturgie puissante, mais des phénomènes paraliturgiques puissants, qui se manifestent par des répertoires de chants extrêmement riches. Dans le monde musulman, c'est des traditions soufis. C'est la tradition des moussems, qui sont ces grands rassemblements où on fête annuellement un saint, un maître spirituel, et où des dizaines de milliers de personnes viennent festoyer, prier, chanter. Et ce sont des moments de très forte intégration sociale. Lorsque ces mouvements s'abaissent, diminuent, on a effectivement ce qu'on connaît dans notre monde occidental. Alors, pour revenir à votre propos initial, il est vrai que notre monde actuel, en tous les cas moderne, occidental, a vu apparaître ce qu'on a qualifié effectivement de dégradation des formes sacrées, d'une certaine manière traditionnelle, et ces formes, ces monuments, je dirais, ces monolithes qui représentaient les forces religieuses, se sont lentement désagrégées et se sont dispersées d'une certaine façon. Mais elles n'en ont pas disparu pour autant. Et elles sont maintenant l'expression de nouvelles formes qui se manifestent de manière polymorphe, multiple, et qui sont surtout l'expression d'une liberté. Parce qu'il est vrai que dans les traditions historiques, la liberté et la religion sont deux formes qui entretiennent un rapport extrêmement ambigu, pour ne pas dire souvent contradictoire ou antagoniste. Je dirais que la liberté et le dogme religieux ont entretenu en permanence un rapport ambigu, complexe et parfois conflictuel. Alors, cette liberté maintenant, que les religions, en tous les cas en Occident, se sont délitées d'une certaine manière, la liberté est ce qui reste d'une certaine façon aux croyants qui veulent vivre de nouvelles expériences. Donc je dirais que sur le plan des musiques sacrées, on a un répertoire qui continue de vivre et de prospérer dans la musique contemporaine, dans le jazz, dans les musiques du monde. On a une expérience des musiques sacrées qui se fait à l'épreuve de la liberté. Auparavant, il suffisait de reproduire des formes qui existaient, des formes préétablies, des formes liturgiques. Même les formes classiques musicales étaient des formes qui, malgré tout, étaient gravées dans le marbre. Il y avait des formes symphoniques, des formes baroques, des formes particulières, des formes de sonates, etc. Maintenant, il y a des formes nouvelles qui exigent d'être mises en relation les unes avec les autres, et cela se fait au risque de la liberté. Et donc, le sacré au risque de la liberté, c'est le défi que doivent affronter les musiques sacrées du monde contemporain.
Sachant que c'est vrai, maintenant on assiste à ce qu'on on emploie même le mot, hein, aux grandes messes des grands chanteurs pop stars en réalité, qui peuvent provoquer parfois des états de transe chez les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs. On a quand même tous en tête quelques concerts qui ont eu des incidences très profondes, hein, sur le psychisme de ceux qui y assistaient. Donc, d'une certaine façon, le sacré a peut-être quitté les lieux liturgiques, mais l'homme ayant toujours besoin de sacré, il a besoin d'être en harmonie avec les autres, en répétant ou en écoutant une musique qui finit par atteindre au cœur même de son âme, et donc par ouvrir une brèche. C'est peut-être ça, finalement, qui est le plus important, Gérard Kurdjian.
Absolument, absolument. J'ai lu récemment un livre qui m'a beaucoup marqué, qui s'appelle « La mystique sauvage » de Michel Hulin, qui est prof de philosophie hindoue à la Sorbonne. Il a développé dans « La mystique sauvage » une idée vraiment très très intéressante. Il fait référence à des états que des particuliers, des gens qui n'ont pas de rapport avec le monde religieux, ont vécu et qui sont absolument proches des états de Sainte Thérèse d'Avila, de Rumi, des états d'extase, de ce fameux sentiment océanique dont parlait Romain Rolland dans sa correspondance avec Freud, ces moments où ils se sentent grandis à la dimension de l'univers, ou rapetissés à la dimension d'une bactérie. Ce sont des états que Michel Hulin qualifie d'états originaires. C'est une thèse qui est assez intéressante. Il tendrait à dire que les religions sont en réalité des créations de nos ancêtres qui ont voulu revivre ces états qu'ils ont vécus de manière inattendue. Et ces états étaient tellement puissants et tellement forts que pour les revivre, ils ont essayé de créer des formes qui auraient pu rendre propice le retour de ces états qu'ils avaient vécus. Et ça renverse d'une certaine façon la hiérarchie, parce que la mystique, telle qu'on la voit véhiculée dans les histoires que l'on connaît, est une mystique entre guillemets noble. C'est la mystique des grandes religions, c'est la mystique du soufisme, c'est la mystique du monde chrétien, c'est la mystique des ascètes hindous qui doit être quelque chose qui doit être travaillé avec la direction d'un maître, sous une guidance, avec des épreuves, des étapes, etc. Or là, on a une vision qui est tout à fait différente, c'est une vision sauvage. C'est une mystique qui se manifeste de manière inattendue et qui peut toucher chacun. Donc, je ne suis pas en train de défendre cette version un peu délicate, parce que c'est vrai que ça nécessite malgré tout beaucoup de précautions, mais je pense qu'on est dans une période où des éléments de cette nature peuvent entrer dans le cocktail qui nous est proposé, et les musiques sacrées, en tous les cas dans leur version moderne, peuvent servir de véhicule à ce type d'état.
Je renvoie les auditeurs à votre livre, Le Grand Livre des Musiques Sacrées du Monde, où ils trouveront toutes sortes d'informations et toutes sortes de cultures que nous n'avons malheureusement pas eu le temps d'évoquer. Et un grand merci à vous, en tout cas, de vous être prêté à ce jeu. La semaine prochaine, nous serons encore à la Saline Royale d'Arc-et-Senans où nous aurons la joie de recevoir Jordi Savall pour un nouveau volet de la série Grand Témoin, émission qui viendra clore notre saison radiophonique. Mais je voudrais avant cela signaler que Jordi Savall donnera un concert le 30 juin ici à la Saline dont vous pouvez peut-être nous dire juste un mot, Hubert Assy.
On sera dans le grand répertoire sacré, puisque ça sera deux messes, la messe de Francesc Valls, compositeur catalan du XVIIIe siècle, comparée à la messe d'Henri Desmarais, qui était compositeur à la cour du roi d'Espagne. Donc c'est la musique sous Philippe V d'Espagne, voilà, à Dole, dans la magnifique collégiale, qui est un lieu splendide et qui est en concordance à la fois avec l'histoire et avec le thème de votre mission.
Absolument, et c'est le 30 juin donc. Merci beaucoup Hubert Assy de nous avoir accueillis si généreusement dans cette Saline Royale que vous dirigez et à laquelle vous insufflez désormais un esprit de spiritualité ouverte et inspirée. Merci aussi Gérard Kurdjian d'être venu nous rendre visite aux Racines du Ciel. Tout de suite, nous retrouvons Frédéric Lenoir pour poursuivre avec lui ses chemins de sagesse.
Alors nous arrivons à cette dernière chronique de l'année sur la sagesse. Je vous disais la semaine dernière, je posais la question, la sagesse est-elle encore possible malgré toutes les critiques qu'on entend aujourd'hui de la part de philosophes contemporains? J'essayais d'expliquer que oui, la sagesse était encore possible et qu'elle demandait effectivement de s'adapter à notre temps et qu'elle était moins, je dirais, globale, moins systématique, plus provisoire, plus fragile, mais qu'en même temps tout à fait possible à notre époque. Et la question, pour terminer tout simplement cette série sur la sagesse que je voudrais poser aujourd'hui, c'est comment éduquer à la sagesse, et notamment par rapport aux enfants. Vous savez, ça fait très très longtemps que je dis qu'il faudrait enseigner la philosophie, non pas en terminale, mais plutôt à l'école primaire. C'est-à-dire au moment où les enfants se posent beaucoup de questions, ils ont une très grande souplesse. On sait que les capacités neuronales sont beaucoup plus importantes. Il y a une plasticité neuronale très grande chez les enfants. Et après 7-8 ans, ça commence à se rigidifier un peu. Donc plus on commence tôt la réflexion, plus les enfants ont une capacité extraordinaire d'agrandir leur champ de réflexion, de se remettre en question, de comprendre des choses. On voit qu'ils peuvent apprendre petits plein d'instruments de musique, plein de langues étrangères, etc. Ça devient beaucoup plus difficile après. Et donc il est très important de pouvoir amener une réflexion philosophique le plus tôt possible. Alors, c'est de la même manière, je pense qu'il est très important de pouvoir apprendre les bases d'une connaissance de soi, à travers notamment la gestion et la connaissance de ses émotions, puisque les enfants sont très sensibles, comme nous tous d'ailleurs, aux émotions, et leur vie émotionnelle est très très importante, mais ils ne la connaissent pas. Ils n'en ont pas une intelligence. Ils n'ont pas souvent une intelligence relationnelle. Donc il y a tout un travail à faire sur la connaissance de soi, du fonctionnement de l'être humain, qui me paraît primordial. Et c'est quelque chose que je fais moi depuis plus d'un an, puisque je développe, j'ai longtemps dit faudrait le faire, je me suis dit je vais le faire. Et donc ça fait plus d'un an que je vais dans une dizaine d'écoles publiques, à la fois en France, en Belgique, au Canada, j'en ai fait aussi dans d'autres pays comme en Côte d'Ivoire, qui permettent de tester, de voir comment se passent ces ateliers philosophiques avec les enfants entre 6 ans et 10 ans, c'est-à-dire à l'école primaire, et les résultats sont assez extraordinaires. C'est-à-dire que c'est vraiment, je suis chaque fois très touché de voir la profondeur de réflexion des enfants, leur capacité de débat. Et lorsque vous lancez une question, par exemple, j'ai fait dans tous ces ateliers, j'ai posé la question du bonheur. Qu'est-ce que le bonheur pour vous? Et on voit un débat extraordinaire qui s'installe entre les enfants. Vous avez un enfant qui va vous dire le bonheur pour moi, c'est de satisfaire mes désirs. Alors il va le dire à sa manière, il va dire c'est d'avoir ce que je veux. Et puis il y a un autre enfant qui va dire mais tu seras jamais heureux parce que tu auras toujours de nouveaux désirs. Et donc, tu seras toujours insatisfait. Et du coup, il y a un débat. Il y a ceux qui pensent que le bonheur dans l'ordre de la satisfaction des désirs est impossible, ceux qui pensent que c'est possible. Et puis, le débat évolue. Et souvent, à la fin, je m'aperçois que des enfants qui pensaient quelque chose ont changé d'avis parce qu'ils ont écouté les autres et que le débat philosophique a permis de passer de l'opinion à la réflexion. Et c'est ça qui est passionnant, c'est que les enfants peuvent très bien comprendre comme ça à combien le débat permet d'enrichir la réflexion, et ce qu'on pensait vrai au départ ne l'est peut-être plus à la fin. C'est toute la maïeutique socratique à travers le questionnement. On a des préjugés, on a des opinions, puis après avoir réfléchi ensemble, on arrive à quelque chose d'autre, qui est une nouvelle idée, qui nous apparaît plus convaincante, et c'est grâce au partage collectif. Il y a des enfants qui vous disent des choses extraordinaires. J'ai fait récemment un atelier philosophique avec des enfants de 7-8 ans, et sur la question du bonheur, il y a un enfant qui me dit « être heureux, c'est exister au monde ». C'est quand même une phrase que pourrait dire un grand philosophe, mais un enfant de 7 ans, on voit qu'il avait atteint déjà un degré de maturité et de compréhension assez extraordinaire. Et je lui ai demandé ce qu'il entendait par là, il m'a dit bah, « le seul fait d'être me rend heureux ». Donc on voit des choses très profondes qui émergent de la bouche des enfants, des vérités très profondes, comme on le dit de manière un peu triviale, mais c'est vrai, des vérités très profondes et une capacité de débattre et de progresser dans la réflexion. C'est pour ça que les ateliers philosophiques pour enfants devraient vraiment se développer. Moi, j'œuvre pour ça et je vais d'ailleurs en parler beaucoup plus à l'automne avec un livre que je vais faire sur le sujet, mais on devrait beaucoup plus développer les ateliers philosophiques à l'école primaire. La deuxième chose, c'est la méditation. Le fait d'apprendre aux enfants une pratique de l'attention. Alors j'entends méditation par une attention, c'est-à-dire une capacité d'être présent ici et maintenant. Les enfants sont extrêmement distraits, ils ont beaucoup de difficultés à être attentifs parce qu'ils sont toujours sollicités par quelque chose, ils sont toujours dans l'interaction avec leurs jeux vidéo, leurs consoles, etc. Et donc le seul fait d'être présent à leur corps, ils ont beaucoup de mal. Alors moi je commence, quand je fais dans les écoles comme ça, par faire 10 minutes de pratique de l'attention dans lequel j'apprends aux enfants à être présents à eux-mêmes, à être présents dans leur corps, à pouvoir être attentifs simplement à leur respiration, à leurs sensations, pour laisser passer les idées, ne pas être tout le temps dans cet état de mental qui est agité. Et puis la troisième chose, c'est l'intelligence émotionnelle. Donc c'est ce qui permet effectivement de comprendre le fonctionnement des émotions, d'apprendre à les identifier, à les reconnaître, de comprendre qu'il n'y a pas, par exemple, d'émotions négatives. On dit toujours aux enfants, la peur, la colère sont des émotions négatives. Non, ce sont des émotions tout court, et selon l'usage qu'on en fait, elles peuvent devenir négatives ou positives. Il y a des peurs qui nous sauvent la vie, il y a des peurs qui, au contraire, nous pourrissent la vie, nous empêchent de vivre. Donc là, il y a tout un travail à faire sur la compréhension des émotions et la gestion des émotions, montrer aux enfants que leur liberté, c'est d'arriver justement à gérer leurs émotions, à les reconnaître, à les nommer, et à avoir une distance qui leur permet ensuite de faire avec, au mieux pour leur situation de vie. Ce qui fait que c'est ce trépied attention, intelligence émotionnelle, intelligence philosophique, je crois que c'est ce qui permet très tôt aux enfants d'être plus heureux, d'aller vers plus de sagesse, de savoir mieux orienter leur vie, de savoir mieux réfléchir à leur vie, d'être par la suite imperméable aux idéologies, aux endoctrinements, parce que quand vous faites, si on faisait des ateliers philosophiques de l'âge de 6 ans à l'âge de 10 ans, après on ne peut plus vous endoctriner. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez vraiment développé une intelligence critique, développé une capacité de jugement, de discernement personnel, comme le disait Montaigne. Montaigne nous disait, l'éducation en France, elle vise à faire des têtes bien pleines, il faudrait au contraire faire des têtes bien faites. C'est-à-dire apprendre aux enfants à juger par eux-mêmes, à discerner par eux-mêmes. C'est ce que permet notamment de faire les ateliers de philosophie. Et je crois que si dans toutes les écoles du monde, on faisait cette pratique de l'attention, des ateliers philosophiques qui rendent l'enfant capable de discerner, et si on leur apprend à gérer leurs émotions, en l'espace d'une génération ou deux, le monde changerait. Puisque la clé de tout, c'est vraiment l'enfant, c'est l'éducation. Et c'est pourquoi je crois que c'est à cet âge-là que commence la sagesse. Je vous remercie pour avoir suivi toutes ces chroniques de sagesse, de chemin de sagesse tout au long de cette année. Je vous souhaite un excellent été et beaucoup de bonheur.
C'était Les Racines du Ciel avec Lélie Anvar et Frédéric Lenoir. Je rappelle que cette émission est podcastable pendant un an et réécoutable pendant 1000 jours sur notre site. Dans un instant, rue des Écoles.